RCF.
Lorsqu'ils ont fondé la congrégation des Petites Sœurs de l'Assomption en 1865, le père Étienne Pernet et Antoinette Fage avaient comme intuition, je cite, « de procurer la gloire de Dieu par le salut des pauvres et des petits ». Aujourd'hui, les Petites Sœurs de l'Assomption sont présentes sur les 5 continents et elles adaptent leur charisme à chaque contexte culturel. Mais le cœur de leurs activités apostoliques, lui, ne change pas. Il est tourné vers des populations appauvries et leurs familles. Je suis allée rencontrer l'une de ces petites sœurs à Vaux-en-Velin, une ville populaire de la banlieue lyonnaise, plutôt considérée comme une ville sensible. Sœur Marceline Moubata est en formation à l'Université catholique de Lyon. Sa petite communauté, composée de 4 sœurs, a organisé sa vie dans 3 appartements situés sur le même palier d'un immeuble récent. Sœur Marceline nous accueille et accepte de raconter le parcours qui l'a conduite de la République démocratique du Congo à la banlieue lyonnaise.
J'ai eu ma vocation dans une famille chrétienne que mes parents m'ont élevée, qui m'ont orientée de suivre le Christ. C'est à partir de ça que dans mon cœur, j'avais eu cette intuition de suivre le Christ, de servir le Christ.
Alors quand vous dites que vos parents vous ont élevée dans la foi chrétienne, qu'est-ce que ça veut dire? Vous alliez à la messe avec vos parents? Vous aviez l'habitude de prier avec vos parents quand vous étiez enfant?
Oui, en famille, on avait l'habitude d'aller à la messe ensemble avec les parents. Et dès là, les parents nous ont montré à la paroisse, il y avait des mouvements. Donc, il y a les enfants qui suivaient la spiritualité des 2 martyrs, Kizito et Anwarit, à la paroisse. Et moi, j'ai pu participer aussi dans ces mouvements à la paroisse, qui m'a aidé plus tard, en grandissant, d'entrer encore dans un autre groupe de la paroisse, on appelle Jeunes de Lumière. Et dès là, j'ai essayé de mûrir petit à petit la vocation. Et dès là, à l'école, il y avait des religieuses qui nous enseignaient à l'école primaire. En voyant aussi les religieuses, j'étais plus attirée. Et je me disais, quand je vais avoir mon bac, cela va m'aider plus de choisir, de faire les choix d'une congrégation religieuse.
Et c'était des Petites Sœurs de l'Assomption ou pas du tout? C'était une autre congrégation à ce moment-là?
Non, à ce moment-là, c'était une autre congrégation. Les Petites Sœurs de l'Assomption n'étaient pas encore au Congo.
Alors, au Congo, les chrétiens, quelle proportion ils représentent parmi les croyants?
Oui, parmi les croyants, normalement au Congo, plus ce sont des catholiques, il y a aussi des musulmans, il y a aussi des protestants. Les catholiques sont plus nombreux par rapport aux musulmans et les protestants. Mais aussi, au niveau du Congo, il y a des églises de réveil. Je peux dire des églises qui naissent avec...
Succès.
Avec succès, ouais. Oui. Il y a des églises qui naissent souvent. Mmh. On appelle souvent des sectes ou des églises de réveil.
Mais là, les catholiques sont majoritaires dans le pays.
Oui, les catholiques sont majoritaires.
Alors, la vocation religieuse, vous nous avez raconté comment petit à petit c'est venu en vous. À quel moment ça a été une certitude pour vous?
Oui, avant mon bac, je me suis décidée de dire je vais vraiment m'engager parce que on avait des groupes de pastorales vocationnelles et de là, les prêtres ou des religieuses qui nous accompagnaient nous demandaient de faire les choix. Donc, de commencer à lire les dépliants, de lire des livres de congrégation pour un peu orienter chacune ou chacun leur vie. Et de là, moi, j'ai lu plusieurs livres d'autres congrégations, mais j'hésitais toujours. Je disais, bon, peut-être je vais attendre un peu, je vais attendre un peu. Et les petites sœurs de l'Assomption n'étaient pas là. Mais à travers un prêtre qui a vécu ici en France, avec les petites sœurs de l'Assomption qui connaissaient les charismes, à ce moment-là, les prêtres étaient de passage. Quand il nous a parlé, il nous a donné encore un livre à lire. Et je me suis plus attirée vers le charisme des petites sœurs de l'Assomption, qui est procuré, pardon, la gloire de Dieu par le salut des pauvres et des petits.
Ça vous a attiré?
Oui, ça m'a attiré parce que le charisme des petites sœurs de l'Assomption, les petites sœurs de l'Assomption s'occupent plus de la famille. Donc, j'ai fait les études pédagogiques et j'ai enseigné aussi. J'accompagnais quelques jeunes filles et je me suis dit pourquoi pas être vraiment avec les petites sœurs de l'Assomption afin que je puisse aussi m'organiser et avancer plus pour aider les familles, les jeunes et les familles en particulier, parce que après mon bac, j'ai pu enseigner aussi dans un centre social des religieuses qui étaient là dans mon village. Et j'ai su combien de fois la famille souffrait et les jeunes filles, surtout les jeunes filles, meurent.
Pourquoi?
Oui, parce qu'il y avait plus des analphabètes qui ne savaient ni lire ni écrire et ça leur demandait, au cas où s'il y a une lettre qui arrivait, quelque chose à faire, on me disait, est-ce que tu peux nous expliquer, tu peux nous lire? Donc pour moi, ça m'a touché, ça m'a travaillé. Pourquoi pas, je peux aussi donner ce que je peux aux autres qui ne connaissent pas lire et écrire.
Et votre relation à Dieu, qu'est-ce que c'était à ce moment-là?
Oui, ma relation à Dieu, comme je disais, j'étais toujours à la recherche. Comment je peux servir Dieu à travers la vie religieuse? Donc, j'étais bien engagée à la paroisse. Et comme je venais de dire avant, le mouvement que nous, on nous encadrait, ça nous donnait vraiment la possibilité de rendre visite aux autres, de vivre une vie fraternelle. Donc, c'est ça qui a nourri à moi cette spiritualité de petite sœur que je peux suivre et servir le Christ.
Donc, pour vous, la relation à Dieu, elle passe beaucoup par le service des autres.
Oui, ma relation à Dieu est passée plus par les services et par des gestes simples. Parce qu'à ces temps-là, on ne donnait pas vraiment beaucoup de choses, mais on s'est donné soi-même. Tu te donnes pour les services des autres.
Qu'est-ce que ça veut dire, se donner soi-même?
Oui, c'est donner soi-même. Tu te donnes, tu fais quelque chose de bon, un acte, un geste simple, sans demander au retour.
Mais ça, c'est... On attend souvent un merci, une gratitude, quelque chose qui vient un peu récompenser la générosité. C'est facile de donner sans rien attendre en retour?
Bon, en soi, la parole, quand les gens disent « ce n'est pas facile », pour moi, avec mon expérience, je vois que c'est facile parce que quand tu pries et tu as l'envie de faire quelque chose de bon, donc tu te donnes, quand on dit, sans quelque chose de retour, parce que la personne peut te dire merci de ce que tu m'as fait. Et toi, en faisant les choses, tu n'attends pas que la personne te donne l'argent, la personne te récompense.
Mais alors, ce service des autres et des plus simples, des plus fragiles, est-ce que vous n'auriez pas pu le vivre en étant mariée, en ayant des enfants? Vous auriez pu peut-être, à travers l'enseignement, à travers la pédagogie, vous mettre au service aussi des autres. Pourquoi dans la vie religieuse?
Oui, je pouvais aussi être mariée ou faire un service en étant laïque, en étant célibataire. Et je le faisais avant de venir chez les petites sœurs. J'ai vécu dans ma famille, j'avais les cousins, des cousines, des voisines, que je faisais aussi quelque chose. Eux aussi, de leur côté, faisaient des biens envers moi. Mais je me suis sentie plus attirée de vivre ou de faire ces gestes-là à la vie religieuse. Et aujourd'hui, ce que je suis en train de faire, pas complètement à la vie religieuse avec mes consœurs, mais aussi avec des laïcs que je pouvais faire comme j'étais encore en famille, mais je l'ai fait toujours ensemble avec les laïcs.
Et alors, c'est facile de renoncer à la vie de famille et notamment avoir des enfants?
Bon, c'est une bonne question. Pour moi, comme j'ai dit, quand j'ai eu la vocation, à moi, je ne pensais pas de regretter un jour ma vie. Et je suis en train de continuer. Je pouvais dire, pour ne pas être mariée ou être mariée, les deux choses vont de même, je peux dire, toujours c'est au service du Seigneur. Et moi, je ne le regrette pas parce que j'ai donné ma vie au Seigneur. Et en étant dans une grande famille, mes sœurs, mes frères ont aussi des enfants que moi, aujourd'hui, je peux aussi accompagner, pas complètement comme mes enfants, mais comme mes enfants de sang. Donc, pour moi, je ne regrette pas d'être religieuse sans avoir les enfants.
Je peux vous demander votre âge?
Oui, j'ai 48 ans. Je viens de fêter mon anniversaire le 18 avril.
Et vous avez beaucoup, une grande famille, beaucoup de frères et sœurs?
Oui, je suis l'aînée de 8 enfants. J'ai 4 frères et 3 sœurs. Donc, nous sommes 8. Et aujourd'hui, j'ai deux neveux, je peux dire nièce et neveu. Donc, pour moi, c'est une grande joie.
Et ils sont en RDC?
Oui, mes frères et sœurs sont en RDC.
Alors, comment ça s'est passé pour vous, l'arrivée en Europe?
Bon, après mes vœux temporaires, j'ai fait 2 ans au Congo. J'étais institutrice à l'école maternelle que nous en avons. Après 2 ans d'expérience, la congrégation m'a envoyé d'aller en Espagne, vivre aussi avec des sœurs, faire partie d'une communauté. Et de là, j'ai pu aussi aider dans une association pour les bénévolats, pour les migrés, les déplacés. Et après l'expérience en Espagne, je suis repartie encore au Congo. De là, j'ai continué à enseigner dans notre école maternelle. Et du Congo, la congrégation m'a demandé d'aller encore au Burkina Faso. De là, j'ai fait 5 ans d'expérience. J'accompagnais un groupe de femmes. Et j'ai fait 5 ans au Burkina Faso. Du Burkina Faso, la congrégation m'a demandé de venir en France pour la formation. Je suis en train de faire la théologie pastorale à l'Université catholique de Lyon.
Mwana nini tanga tanga, mwana nini tanga tanga, baba yango be bafiri muchoji.
Mwana nini tanga tanga, mwana nini tanga tanga, baba yango be bafiri muchoji.
Sœur Marceline Moubata, vous acceptez de quitter des lieux où vous êtes installée, etc. Ça suppose beaucoup d'obéissance?
Quand j'ai suivi ma formation, surtout au moment de la formation au noviciat, j'ai pu comprendre notre règle de vie avant de prononcer mes 3 vœux, les vœux de chasteté, d'obéissance et de pauvreté. Et de là, je me suis engagée, je me suis dit, je vais vivre dans cette obéissance du Christ. C'est vrai que l'obéissance n'est pas complètement facile, mais notre obéissance, moi je le vis, c'est avec les dialogues, avec la responsable qui te demande un service. Ce n'est pas aveuglément qu'on me demande de faire et moi je le fais. Et il y a aussi un sens de discernement avec ce sens d'obéissance. Bien que si je ne suis pas d'accord, je parle avec ma responsable pour voir la raison pour laquelle je ne suis pas d'accord. Il y a un dialogue.
Ça permet de comprendre des décisions et puis de trouver du sens à la suite des événements.
Oui, comme la congrégation est internationale, le temps que les responsables prennent des décisions ou proposent de t'envoyer ailleurs, on t'informe ou on t'appelle sur place. On t'annonce que maintenant nous voulons t'envoyer dans un tel pays pour une telle mission. Et de là, toi-même tu es libre. Et on te laisse aussi le temps de prier, de discerner avant de donner la réponse. Donc toi-même, tu réfléchis, tu dis des causes et des conséquences si tu ne veux pas, pour quelles raisons tu ne veux pas aller. Mais moi, en faisant le vœu d'obéissance, je n'obéis pas parce que ce sont mes responsables. Mais quand même, je me suis engagée dans la vie religieuse. Et pour moi, c'est une opportunité d'annoncer le Christ partout où je suis.
Et aujourd'hui, c'est en France.
Oui, aujourd'hui, c'est en France. Et demain, je ne sais pas là où je serai envoyée.
C'est une surprise. Oui. Alors, quelle idée, quelle image vous aviez de la France avant de venir?
Bon, l'image de la France, parce qu'en France, je venais de temps à autre. Je venais pour des formations, pour des sessions. Et il y a une différence entre chez moi et la France. Et j'aime parce que je suis en train d'approfondir ou d'apprendre de vivre l'interculturalité. Parce que chez moi, au Congo, je vis avec mes sœurs, avec les Congolais, Congolaises. Et en sortant, je vis cette dimension de la fraternité universelle, cette dimension d'interculturalité intergénérationnelle.
Ici en France en particulier?
Oui, dans la communauté. Mais en général, en France, je découvre aussi d'autres visages des personnes que je n'ai jamais vues. Et c'est là aussi m'ouvre, donc, de voir l'horizon, de voir le monde différent de ce que moi je voyais quand j'étais encore chez moi.
Mais là, au sein de la communauté, donc, vous faites l'expérience de l'interculturel, de l'intergénérationnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi vous dites ça?
Oui, en communauté, nous sommes quatre maintenant. Il y a une sœur française, il y a deux sœurs malgaches et moi, la sœur congolaise. Et la sœur française, je vois déjà la différence de l'âge. C'est ça que je pouvais dire aussi, intergénérationnel, parce que moi, je suis au milieu avec mon âge et les deux sœurs malgaches sont encore petites, je peux dire en âge par rapport à moi. Donc, c'est cette différence d'intergénérationnel. Et pour
Culturel.
interculturel, c'est la même chose. La culture de la France est bien différente avec la culture de la RDC. La culture de la RDC est bien différente avec la culture malgache. Mais tout ça, nous le mettons en commun pour pouvoir vivre ensemble la fraternité.
Et vous y arrivez?
Bon, de temps à autre, c'est difficile parce que si le repas de la France est différent de ce que nous mangeons, que nous le faisons avant, donc on essaye d'entrer et d'apprendre, de goûter de la même façon comme chacune de nous a son jour de faire la cuisine. Donc nous essayons de nous collaborer ensemble et de voir comment vivre parce que c'est un choix que nous avons voulu vivre, de vivre la fraternité dans cette différente culture.
Et est-ce que vous avez le sentiment que ça vous enrichit?
Oui, moi, ça m'enrichit parce que dès ma formation, j'ai vécu avec d'autres sœurs d'autres pays. Et comme c'était chez moi, je ne les sentais pas si fort. Mais en sortant, en allant vers les autres, je les sens et ça m'enrichit. Et je sais bien qu'un jour, si je partais chez moi, je ne vais pas regretter. Donc, pour moi, c'est quelque chose que j'ajoute, quelque chose qui m'aiderait à dire aussi aux gens qui ne savent pas ou qui ne savent pas la valeur de vivre dans cette interculturalité.
Pourquoi c'est riche? Qu'est-ce que ça vous apporte?
La culture de l'autre, plus ou moins, c'est riche parce que je ne peux pas dire que c'est ma culture seulement qui est bonne, ma culture qui est riche. Ce que je ne connaissais pas chez moi, j'apprends avec la culture de l'autre. Donc ça me transforme pour ne pas rester seulement avec ce que moi je connais, mais j'ajoute plus. Et de l'autre aussi, elle voit ce que moi je fais, elle ajoute plus. Donc on fait comme l'échange des idées, l'échange de la culture, et c'est ça qui fait l'harmonie à la communauté.
Avec des différences,
Oui, avec les différences.
mais c'est pas parce qu'il y a des différences que c'est pas qu'il y a pas d'unité. Il y a une unité quand même entre vous.
Oui, nous vivons vraiment cette unité, premièrement parce que nous sommes des chrétiennes et nous sommes des religieuses et notre vie communautaire qui nous unit encore plus par la prière, pas complètement par les repas, mais tout ce que nous partageons, ce que nous vivons, c'est ça qui fait que nous vivons dans l'unité.
Et alors l'intergénérationnel, la sœur française dont vous parliez, c'est sœur Lucie, qui est la plus âgée de vous toutes.
Oui.
Vous n'étiez pas habituée à avoir une sœur âgée comme ça à vos côtés?
Bon, vivre avec la sœur Lucie à son âge, j'ai déjà vécu avec les sœurs qui étaient aussi un peu plus âgées, mais elle, je l'ai connue depuis longtemps et c'est ma première fois de vivre avec elle malgré son âge et pour moi, ça ne me surprend pas.
Quel âge elle a d'ailleurs?
Elle a déjà 80 ans. Ça m'apprend beaucoup de choses parce que la sœur est tellement dynamique, la sœur est disponible. Et je la prends comme la mère qui est là au milieu des enfants, qui est attentive, qui sait demander, qui sait voir des choses pour voir est-ce que celle-là va bien, celle-là a bien travaillé. Donc, la façon d'être de la sœur m'encourage aujourd'hui comment, dans mon tour, un jour, je peux être aussi responsable de veiller sur les autres. Donc, sa présence à la communauté nous fait du bien et elle a aussi un peu le sens d'humour quand elle nous parle de ses expériences. Ça aussi, ça me rassure et ça me donne encore plus de force pour aller en avant.
Donc vous riez ensemble en plus.
Oui, surtout à table, on rit et elle nous raconte plus des histoires de sa vie religieuse avant. Et il y a d'autres sœurs qui sont déjà mortes au moment de la prière ou d'une histoire. La sœur nous rappelle aussi comment elle vivait à ces temps-là avec les sœurs.
Et alors la vie de foi, toute ensemble, comment ça s'organise et comment s'organise le quotidien dans ces trois appartements qui sont les uns à côté des autres sur le même palier de l'immeuble? Comment vous vivez?
Ici, c'est une communauté de sœurs étudiantes. Chacune a son horaire de cours et par semaine, chacune aussi a son jour pour les faire les repas. Chacune a son jour aussi pour la prière. Pour la prière, c'est pour une semaine, une sœur qui fait la prière pour une semaine.
Qui prépare la prière pour la communauté?
Oui, qui prépare la prière pour la communauté. Donc, on commence le samedi soir jusqu'à l'autre samedi. Quand il passe, une autre sœur prend aussi son tour. Donc, cette unité, je peux dire, nous les vivons en prière parce que la prière, d'abord, est à la base de tout. Je peux avoir mes soucis, mes problèmes, mes joies et tout. Donc, le Christ qui est au centre de notre vie, nous le mettons en pratique un tout petit peu, je peux dire, parce que ce n'est pas 100%. Nous sommes des êtres humains à la prière et nous nous soutenons en accompagnant aussi nos familles et les peuples qui souffrent de gauche à droite. Donc, nous nous unissons pour que nos prières peuvent monter vers le Seigneur et nous pensons à nos voisins, nos voisines.
Quels sont les moments que vous avez en commun au long de la journée? Les repas, la prière, il y a d'autres temps forts comme ça qui vous réunissent toutes?
Chaque sœur sort pour ses études, mais les moments de prière, les moments de repas et vraiment les moments communs. Nous nous réunissons en commun au moment de la prière et au moment du repas. Le reste, chacune est dans son coin pour le travail.
Témoin. Sœur Marceline Moubata, vous êtes petite sœur de l'Assomption. Vous êtes habillée en civil. Est-ce que les gens du quartier savent qui vous êtes?
Bon, les gens du quartier, pas tout le monde nous connaissent qui nous sommes parce que nous n'avons pas une tenue religieuse, un habit religieux. Et les gens de la paroisse, oui, les gens nous connaissent. Et les sœurs ont vécu plus de 40 ans. Donc les gens qui ont déjà vécu ici connaissent qui sommes-nous. Nous sommes des petites sœurs de l'Assomption, mais une nouvelle génération ne peut pas savoir parce que nous sommes en civil.
Et quel est le sens de votre présence ici? Vous pourriez vivre dans un grand appartement peut-être, mieux adapté à votre vie communautaire. Pourquoi ici?
Oui, notre charisme, nous sommes proches des familles. Nous entrons vraiment dans des familles, vivant la vie des familles, vivant la vie des quartiers pauvres. Ce qui fait que nous sommes vers la périphérie. Et nous pouvons aller ailleurs, mais notre charisme ne nous permet pas d'être avec les gens qui sont encore hautes. Je peux dire, nous voulons vivre avec les gens qui sont pauvres. C'est ça, nous voulons témoigner le Christ par les gestes, par nos actes. Auprès des plus pauvres.
Mais les gens ne savent pas qui vous êtes, ne savent pas que vous êtes chrétienne. Alors, est-ce que vous pouvez, malgré tout, témoigner du Christ?
Oui, les gens ne savent pas, mais notre mission, nous sommes proches des gens, malgré les gens ne nous connaissent pas qui sommes-nous. Et avec ce que nous faisons, il y a une sœur qui vient de passer, qui a travaillé à la maison des familles. Là, c'est l'accueil des familles. Et de là, les gens qui vivaient avec la sœur pendant 6 mois ont découvert un peu qui sommes nous, notre charisme, notre manière de vivre avec les gens. Bien que nous partons à l'école, nous n'avons pas trop de temps pour être avec les gens, de faire d'autres choses pour que les gens puissent nous connaître. Mais quand même, les sœurs qui ont vécu plusieurs années ici ont accompagné les familles. Et aujourd'hui, nous avons un petit groupe de la fraternité. Les gens qui suivent notre spiritualité. Donc, à ces temps-là, les gens nous approchent et on connaît qui sommes nous et ce que nous faisons.
Même si ce n'est pas très visible, le fait d'être là, ça, c'est déjà important?
Oui, le fait d'être là, c'est vraiment tellement important parce que nous, avec les actes, comme je disais, ce n'est pas avec les paroles que les personnes peuvent nous connaître. Donc, des petits gestes de fraternité, des petits gestes d'amour que nous manifestons, à ce moment-là, on s'est dit, mais c'est qui? Ah, ce sont les sœurs. Et nous sommes plus attentives de voir qui n'a pas de possibilité et comment les soutenir, comment les conseiller, comment l'accompagner. Donc, c'est ça qui est vraiment utile. Et nous ne donnons pas, comme on dit, de l'argent ou d'autres choses, mais notre présence, de faire des petits gestes d'accompagnement, c'est ce qui est important pour nous.
Quel genre de petits gestes?
Oui, des petits gestes, je peux dire, ici au quartier, il y a des fois une personne qui vit seule. Donc, le temps d'aller rendre visite, de faire un peu de courses, faire la cuisine ou aider à faire un peu de ménage, c'est ça qui est des gestes simples, les gestes que les gens ne voient pas.
Donc, c'est à travers ça que vous manifestez votre... que vous témoignez du Christ, mais sans forcément le nommer.
Sans forcément le nommer, et notre charisme en soi, en général, nous le vivons, ça dépend des contextes, ça dépend du pays où nous sommes. Comme je parle de la France, ici en Vaux-en-Velin, comme c'est la communauté des étudiantes, nous n'avons pas plus d'engagement. Mais ailleurs, les sœurs sont vraiment présentes. Nous avons, au Madagascar, il y a un centre nutritionnel, et centre de couture, il y a accompagnement pour les enfants en soutien scolaire. Au Burkina Faso, il y a aussi des centres d'accueil pour les femmes. Et au Congo, la même chose. Il y a un petit centre pour la couture, il y a les enfants de la maternelle. Donc, à ce temps-là, notre présence, ça se voit à travers les gens, à travers les jeunes et à travers les enfants. Mais au fur et à mesure, notre charisme change ou prend un peu un autre visage, c'est par rapport à la réalité actuelle là où nous sommes.
Vous vous adaptez aux besoins.
Oui, nous nous adaptons aux besoins.
Pour finir, sœur Marceline Moubata, ici en France, vous vous rendez compte qu'il y a peu de vocations religieuses. Les jeunes sœurs viennent souvent d'Asie, d'Afrique. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Oui, pour moi, je me pose la question et je me dis oui. Avant, c'est l'Europe ou la France qui nous ont amenés cette fois. Il y avait plus de vocations ici et pour le moment, ça diminuait. Ça vient d'autres continents. Et ma prière ou notre prière communautaire, nous prions pour que le Seigneur envoie des vocations, pas complètement chez les petites sœurs de l'Assomption, mais dans d'autres congrégations aussi. Et je peux dire que c'est une étape de vie. Peut-être un moment, la vocation va revenir encore en France ou dans d'autres coins qui n'ont pas la vocation. Et au niveau d'autres continents, comme il y a des vocations, et on verra comment ça va évoluer.
En tout cas, pour le moment, c'est vous la relève.
Bon, pour le moment, c'est nous la relève, bien qu'il y ait aussi d'autres sœurs françaises et d'autres sœurs d'autres pays. Mais quand même, nous sentons qu'il y a une diminution des vocations.
Même chez vous ?
Non, chez nous, il y a encore des jeunes. Il y a des jeunes qui aspirent, il y a des novices. Peut-être dans chaque 2 ans, il y a toujours des vœux. Mais en France, il y a un moment, on a plus encore des vocations. Mmh. Oui.
Et encore une question. Oui. Quand vous allez à la messe ici en France, on dit souvent que c'est très triste par rapport aux messes africaines.
Oui, je dirais, premièrement, peut-être c'est par rapport à la culture ou à la réalité du pays. C'est vrai que chez moi, la prière ou l'animation de la messe, c'est avec le chant et la danse. Et ici, c'est vrai que c'est un peu triste par rapport à ma réalité, à ce que j'ai déjà vécu avant. Mais pour moi, ça ne m'empêche pas parce que je suis en train d'entrer avec une autre réalité. Je l'ai pris, j'ai vu ma foi. Bien qu'il y a un moment, je sens quelque chose qui manque de dynamique et tout ça, mais ça ne m'empêche pas de prier.
Merci beaucoup, sœur Marceline Moubata. Je rappelle que vous êtes petite sœur de l'Assomption, originaire de RDC. Merci à vous.
Merci, Véronique.